Au début du Second Conflit mondial, quand mon oncle est entré dans la résistance, il a pris un nom de guerre pour remplacer le sien qui avait une consonance germanique. Je connais plusieurs personnes qui ont un nom propre difficile à porter parce que c'est une cible toute faite pour les quolibets. Le prophète Agée a lui aussi un nom intéressant car il signifie festif ou fête solennelle. Certains commentateurs pensent qu'il est né pendant l'une des quatre festivités solennelles d'Israël et c'est ce qui expliquerait l'origine de son nom. Pour Jérôme, père de l'Église et le rédacteur de la Vulgate, ce nom viendrait du fait que Agée a semé dans les larmes, mais a moissonné avec des cris de joie, le cœur en fête, quand il a été témoin de la reconstruction du temple de Jérusalem. En réalité, Agée ne dit absolument rien de lui-même. Il a fait son devoir, écrit un sommaire de sa prophétie en seulement deux chapitres, puis s'est retiré du devant de la scène, qu'il n'a d'ailleurs occupé que 5 mois tout au plus. De ce prophète, on ne connaît donc que le nom et les 4 oracles que contient son livre, lesquels furent délivrés dans l'ancien royaume de Juda en très peu de temps, d'août à décembre de l'année 520 avant notre ère. Cependant, au travers de sa prophétie, on découvre un homme d'action énergique et animé par une sainte impatience, car il a hâte de voir reprendre les travaux trop longtemps interrompus de reconstruction du temple. Plus orateur que poète, il force la résolution de ses contemporains par des images frappantes et grâce à ses convictions personnelles. Il s'adresse à la raison, à la volonté de ses auditeurs, plus qu'à leur imagination ou à leurs sentiments, et le résultat désiré ne tarde pas à couronner ses efforts. La nécessité de la restauration du temple provient de la place considérable qu'il occupait dans la vie de la nation. C'était, en effet, le signe visible de l'alliance conclue au Sinaï entre l'Éternel et Israël et le symbole de l'habitation de Dieu au milieu de son peuple. Le temple renversé représentait donc une sorte de rupture d'alliance et la cessation de la relation qui unissait Dieu à la nation tout entière. La reconstruction du temple était aux yeux du prophète une obligation sacrée qui devait s'imposer à la conscience des Israélites. Agée est mentionné avec le prophète Zacharie, son contemporain, dans le livre d'Esdras. Mais comme son nom ne figure pas dans les listes des colons juifs rentrés d'exil, il se peut que sa famille étant très pauvre, elle avait été autorisée par les Babyloniens à rester en Juda pendant l'exil, ou bien il n'était qu'un enfant accompagnant ses parents quand ils se sont joints aux premiers Israélites en direction de la Palestine. La troisième possibilité est qu'il faisait bien partie des colons en tant qu'adulte, mais son nom ne figure pas sur les listes parce qu'elles sont incomplètes et répertorient surtout des chefs. Les noms d'Agée et de Zacharie apparaissent dans les titres du début de certains psaumes des anciennes versions grecques et syriaques. Mais on ne sait pas trop quel crédit accorder à cette tradition, car de telles mentions peuvent aussi provenir d'un scribe trop zélé. Quand on aime bien quelqu'un, on essaye de faire de lui un personnage important, un auteur accompli, un héros. Une autre explication possible est que ces deux prophètes ont travaillé les 10 psaumes afin qu'ils puissent être chantés pendant le culte rendu à l'Éternel. Comme l'avaient annoncé les prophètes Ésaïe et Jérémie, Babylone fut conquise en l'an 539 avant Jésus-Christ par Cyrus, roi des Mèdes et des Perses. L'année suivante, il promulgue un décret qui autorise les Juifs à retourner dans leur pays et à reconstruire le temple de l'Éternel. Le texte gravé sur ce qu'on appelle le cylindre de Cyrus et qui fut découvert au XIXe siècle nous apprend que ce comportement faisait partie de la politique menée par ce souverain envers tous les peuples assujettis dans le but très pratique de se concilier ses populations ainsi que la bienveillance de leur divinité. Il ne faudrait surtout pas croire un seul instant que Cyrus était devenu monothéiste et un adorateur de l'Éternel. On sait au contraire qu'il révérait Bel-Marduk, le patron de Babylone, et qu'après avoir capturé cette capitale, son premier souci a été de remettre à leur place, chacune dans son sanctuaire, toutes les divinités de la ville. Il vaut toujours mieux avoir les dieux de son côté que contre soi, et si ça ne sert à rien, en tout cas, ça ne peut pas faire de mal. Suite au décret de Cyrus, environ 50 000 juifs retournent en Juda sous la conduite du grand prêtre Josué et surtout du prince Zorobabel, qui deviendra haut commissaire de la Judée pour l'empire perse. Mais ce départ de Babylone en direction de la Palestine ne donne pas lieu à un grand feu d'artifice, parce que les Israélites, nés en exil, sont confortablement installés et préfèrent rester où ils sont, car les affaires marchent plutôt bien. Que ce soit en terre promise ou à l'étranger, ils sont toujours sous la bénédiction d'Abraham. Il faut se mettre à leur place. Ils ont une bonne situation, portent costume cravate et font une tonne de fric. Alors ils sont pas très motivés d'aller vivre dans un pays en ruine occupé par des païens qui se sont emparés des maisons et des terres ayant autrefois appartenu à leur famille. Cependant, plus tard, sous Cambyse, le successeur de Cyrus, d'autres exilés auront un remords de conscience et retourneront en terre promise. Et par la suite, il n'a probablement jamais cessé d'arriver d'autres colons. En l'an 537, quelques mois après leur arrivée en Palestine, les Israélites rétablissent l'autel des holocaustes qui se trouvait à l'entrée du lieu saint du temple et offrent des sacrifices à l'Éternel. Ensuite, ils se lancent dans la reconstruction du temple proprement dit qui avait été rasé par les Babyloniens et pose les fondations de l'édifice. Mais c'est alors qu'au nom de la fraternité des peuples, les populations du pays proposent leur aide aux Juifs. En fait, c'était surtout les gens qui habitaient le centre de la Palestine qui voulaient se joindre aux travaux. Ces Samaritains, comme on les appelait, étaient un mélange de descendants d'Israélites du royaume des 10 tribus et de païens étrangers amenés par les Assyriens pour repeupler le pays. Mais ces Samaritains essuient un refus catégorique de la part de Zorobabel, car accepter la participation d'une peuplade syncrétiste à la construction du temple de l'Éternel aurait introduit l'idolâtrie. Or, la leçon infligée par Dieu à son peuple avait porté ses fruits et le nouveau peuple de Juda voulait désormais rester à l'écart des influences extérieures néfastes qui avaient jadis causé sa ruine. Vexés, les Samaritains veulent se venger en essayant de décourager les Israélites. Ils cherchent à les effrayer et arrivent à susciter une opposition si farouche à leur projet de reconstruction de la part des peuples alentours et des autorités perses que les travaux doivent cesser. Les Juifs qui s'étaient imaginé que la prospérité les attendait et qu'ils seraient immédiatement sous la bénédiction divine sont amèrement déçus. Alors, devant les difficultés rencontrées, ils jettent l'éponge. Ils apprennent à vivre au milieu des ruines et décident de s'installer le plus confortablement possible, laissant à d'autres et à plus tard le soin de reconstruire le temple. L'enthousiasme qui avait marqué le rétablissement de l'autel des holocaustes s'est transformé en un vent glacial et le chantier sera interrompu pendant plus de 15 ans. La situation perdure sous le règne de Cambyse, fils de Cyrus, qui est un roi cruel au caractère lunatique et plutôt contre la reconstruction du temple à un dieu qu'il n'approuve pas. Apparemment, ce despote a fatigué l'Éternel, il a trop tiré sur la corde et il meurt dans des conditions mystérieuses, sans doute par suicide. Il ne laisse pas de fils et avait fait assassiner son frère. Après la mort de Cambyse, on se dispute le pouvoir. Suite à quelques intrigues compliquées, c'est Darius Hystaspe, de race royale, qui prend la direction de l'Empire perse. Au début, il doit faire face à plusieurs révoltes, ce qui l'occupe pendant 2 ans. Une fois l'ordre rétabli, Darius règne sur un empire qui atteint les Indes à l'est et l'archipel grec à l'ouest. Dans l'ensemble, il fut un bon administrateur, mais il fit une expédition malheureuse contre les Scythes qui habitaient le bassin du Don en Russie. Il eut aussi quelques démêlés avec les Grecs et ses généraux furent vaincus à Marathon. Darius mourut à l'âge de 73 ans après un règne de 36 ans. En passant, il vaut la peine de noter qu'en l'an 514, 8 années après le début de son règne, Babylone tenta une révolte, la seconde sous le roi Darius. Les murailles de la ville furent alors démolies, marquant une étape importante de la destruction totale de Babylone, annoncée par les prophètes de l'Éternel. C'est à la fin de la période trouble des 2 premières années du règne de Darius que les prophètes Agée puis Zacharie se lèvent pour appeler le peuple à continuer le chantier du temple. Les Israélites se remettent donc au travail, mais les responsables politiques de la province perse qui avait juridiction sur la Palestine s'inquiètent de cette activité religieuse et envoient un rapport à Darius. Cependant, les chefs du peuple de Juda défendent leur droit de continuer les travaux en s'appuyant sur le décret de Cyrus. Darius ordonne alors de faire des recherches dans la capitale de la Médie où l'on retrouve l'édit de Cyrus. Darius autorise alors la reprise de la reconstruction du temple qui sera achevée en l'an 516. Il aura donc fallu une 20aine d'années pour que le temple soit reconstruit. Les 4 oracles qui composent le livre d'Agée sont toutes datées avec précision parce qu'on a retrouvé des documents consignant des observations astronomiques qui permettent de convertir ces dates dans notre façon de compter les années. Au moment où Agée commence son ministère, le temple est en ruine et les Juifs ne s'en préoccupent plus. Ils ne s'intéressent qu'à leur propre situation et passent leur temps à embellir leur maison. Mais il faut dire aussi qu'ils sont en mode de survie à cause des conditions économiques difficiles qu'ils connaissent. La prophétie d'Agée porte essentiellement sur la nécessité de reconstruire le temple de l'Éternel après plus de 15 années d'arrêt des travaux. Le texte que nous possédons n'est qu'un sommaire de ces oracles. C'est de la prose ordinaire, mais puissante dans sa simplicité, et tout porte à croire que dans sa forme complète, le langage de cette prophétie était très éloquent. De toute façon, il n'est pas nécessaire d'utiliser des belles tournures oratoires pour dire à des gens qu'ils doivent se mettre sérieusement au travail. Dans le premier oracle, le prophète dénonce la négligence des Israélites qui ne se soucient que de leurs propres affaires, de leurs villas et délaissent le temple en ruine. Il précise aussi que c'est à cause de cette mauvaise attitude que l'Éternel a suscité les difficultés économiques dans le pays. Le peuple, encouragé par Zorobabel et le grand prêtre Josué, décide alors de poursuivre les travaux. Agée délivre le 2e oracle le dernier jour de la fête des cabanes, alors que le peuple se trouve rassemblé aux alentours du chantier pour le culte lié à cette célébration. Les personnes les plus âgées qui ont connu le temple de Salomon avant sa destruction déplorent l'état actuel de l'édifice. Mais Agé passe outre ses rabat-joie et encourage les bâtisseurs à prendre courage en leur promettant la présence et l'aide divine. De plus, il leur annonce que le temple qu'ils sont en train de reconstruire connaîtra une gloire plus grande encore que celle du précédent, et même qu'un jour, les richesses de toutes les nations afflueront à Jérusalem. Cette prophétie est diamétralement opposée aux circonstances déprimantes dans lesquelles se trouvent les Israélites, car ceux-ci habitent un tout petit lopin de terre de l'Empire perse et leur qualité de vie est déplorable. Mais, selon Agé et tous les prophètes d'ailleurs, l'histoire est en marche vers une ère nouvelle qui est le jour de l'Éternel et qui débutera par un chamboulement du ciel et de la terre avant que Dieu n'établisse son royaume en ce monde. Le troisième oracle porte sur la situation économique du pays. Le peuple s'est rendu coupable envers l'Éternel à cause de sa négligence vis-à-vis du temple et c'est ce qui lui vaut les conditions misérables qu'il connaît. Mais maintenant qu'il s'est attelé à la tâche de reconstruction, l'Éternel promet de le bénir et de lui accorder la prospérité dès la nouvelle année agricole en cours, bien que les Israélites ne puissent pas consacrer beaucoup de temps aux travaux des champs. Le quatrième oracle, prononcé le même jour que le précédent, comporte une promesse concernant la continuité de la dynastie de David, représentée par Zorobabel, prince de Juda. Lorsque l'Éternel ébranlera le ciel et la terre, les puissances de ce monde perdront leur pouvoir pour céder la place au royaume de Dieu. Les oracles d'Agé constituent un appel adressé au peuple de Dieu à faire du royaume à venir sa préoccupation première. À cette exhortation est assortie la promesse que des conditions de vie meilleures lui seront données en plus. C'est aussi ce que Jésus a enseigné quand il a dit « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Avec quoi nous habillerons-nous » Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse, mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Agé ne condamne pas la préoccupation du peuple pour son bien-être, comme si c'était une faute, car l'Éternel ne lui demande pas de faire vœu de pauvreté. Par contre, l'Éternel veut que chacun de nous revoie son échelle de valeur et de priorité afin de lui accorder la première place. À tout seigneur, tout honneur. Pour encourager ses compatriotes, Agé ne se contente pas seulement de faire des promesses à court terme, mais, comme je l'ai dit, il brosse un tableau du plan de Dieu et de sa finalité qui est l'établissement sur terre du royaume de Dieu. La restauration du temple n'est qu'un prélude, une étape vers cet objectif lointain et grandiose. L'action présente, aussi modeste soit-elle, d'une part est nécessaire à la réalisation de ce projet divin et d'autre part a un sens car elle va dans une direction précise. C'est ainsi qu'en reconstruisant le temple, les Israélites sont appelés à contribuer en leur temps à la réalisation du plan de Dieu pour les âges. Quand on arrive au Nouveau Testament, on constate que le projet de Dieu a beaucoup progressé depuis le temps d'Agé. La prophétie concernant le temple, alors en reconstruction, est détruite. Depuis, c'est réalisé quand Jésus, qui est la révélation de la gloire de Dieu, est venu sur terre. L'annonce d'un nouveau chamboulement du ciel et de la terre, débouchant sur une ère nouvelle, est interprétée par l'auteur de l'Épître aux Hébreux comme ayant commencé avec l'instauration de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. En effet, celle-ci dépasse et rend caduque l'ancienne alliance du Mont Sinaï, car elle est conclue avec des gens de tous les peuples, ce qui représente un pas de géant vers la venue du royaume de Dieu. La prochaine étape sur le calendrier de Dieu est l'enlèvement de l'Église. La promesse dont Zorobabel était porteur en tant que représentant de la dynastie de David s'accomplit en Jésus-Christ de la lignée de David, qui a reçu la royauté à sa résurrection et qui reviendra établir son règne sur la terre entière. Les prophéties d'Agée ont déjà connu un accomplissement partiel, mais nous attendons l'aboutissement de l'ordre nouveau instauré par la mort, résurrection et ascension de Jésus-Christ et par la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte. Dans cette attente, tous les croyants sont appelés à contribuer à la réalisation du plan de Dieu en participant à l'établissement et l'édification de l'Église universelle.